Il est 7h.
Le rapport de l'IGPN était un rapport rédigé à la hâte et ressemblait un peu à une commande.
Nouvel élément après le premier rapport de l'IGPN sur la mort de Steve Maya Canisso lors de la fête de la musique à Nantes il y a 2 ans. La chute du jeune homme dans la Loire a bien eu lieu au moment de l'intervention de la police. Les régionales J-2, d'ores et déjà La République En Marche se prépare. Un casse-tête dimanche, région par région. Le 12e homme demain à Budapest, il s'appelle Loïc Négo, joueur français naturalisé hongrois. Il affrontera donc les Bleus demain pour leur 2e match de l'Euro. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international, Vincent Hervouet.
Oui, la présidentielle aujourd'hui en Iran, sans participation, sans suspense et sans illusion, les conservateurs verrouillent.
À 7h20, on va retrouver Virginie Fulpin pour l'édito sport.
Et il n'y a pas que le foot dans la vie, l'euro, c'est aussi l'euro de basket au féminin, ça a commencé hier en fanfare pour les Bleus.
Et juste avant 7h30, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'était dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, la disparition d'un jeune homme de 24 ans à Nantes, après la dispersion par les forces de l'ordre d'un rassemblement à l'occasion de la fête de la musique. Tombé dans la Loire, son corps sera retrouvé un mois plus tard. L'affaire, sur fond de dénonciation des pratiques policières liées au mouvement des Gilets jaunes, prend vite un tournant politique avec jusqu'alors un point clé. Un rapport de l'IGPN qui estimait qu'aucun élément ne permettait d'établir un lien direct entre la disparition de Steve Maya Canisso et l'intervention de la police.
Mais ça, c'était jusqu'à hier. Bonjour Charles Guyard.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nantes. De nouvelles conclusions, cette fois présentées par le procureur de la République de Rennes, viennent rebattre les cartes.
Oui, et tout repose sur une question d'horaire. Dans son rapport de juillet 2019, un mois après le drame, l'IGPN concluait que l'intervention des forces de l'ordre survenue entre 4h24 et 4h52 cette nuit-là n'avait pas pu provoquer la noyade de Steve puisque son portable était déjà inactif à 3h16, les enquêteurs s'appuyant alors sur la facture du téléphone. Or, l'expertise plus poussée de l'appareil dévoilée hier établit que celui-ci a cessé d'émettre à 4h33, donc au moment de la charge des policiers. Une nouvelle chronologie qui interroge l'avocate de la famille Maya Canisso, maître Cécile de Oliveira.
L'analyse de sa facturation détaillée permettait de voir quel était le dernier message émis. Ce n'était absolument pas la question qu'il fallait se poser. Le rapport de l'IGPN était un rapport rédigé à la hâte et ressemblait un peu à une commande qui visait peut-être à démontrer une absence de lien entre la mort tragique de Steve Maya Canisso et l'intervention policière. C'est le Premier ministre lui-même qui en avait donné connaissance en présence du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, très officiellement.
Reste une ultime zone d'ombre dans laquelle la défense pourrait s'engouffrer. C'est l'endroit précis de la chute, la géolocalisation du téléphone s'avérant techniquement impossible.
Charles Guyard à Nantes pour Europe 1. 8 personnes physiques et morales, dont le commissaire chargé de l'intervention cette nuit-là, ainsi que le préfet, la maire de Nantes, sont convoquées pour le mois prochain. Convocation qui pourrait aboutir à des mises en examen. 10 ans de prison, mais la qualification terroriste écartée, la condamnation hier devant la cour d'assises spéciale de Paris de l'homme qui a fourni la Kalachnikov au tueur de Xavier Jugelet, ce policier assassiné sur les Champs-Élysées en avril 2017.
3 et 1 qui font 4 après le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Jean Castex aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine.
Ou comment la majorité espère offrir un coup de projecteur à des candidats pas franchement en bonne posture alors que se tient dimanche le premier tour des régionales. Un scrutin dont les résultats seront étudiés à la loupe par l'état-major de La République En Marche et très vite, il faudra sans doute aussi faire des choix, Aurélie Herbemont.
On va faire de la dentelle x12, confie un dirigeant en clair, une stratégie par région. Dimanche soir, l'état-major macroniste regardera 3 éléments. Ses propres scores, potentiellement très disparates, à 10, 15 ou 20% selon les régions, l'ampleur de la vague RN et le rapport de force entre extrême droite et listes capables de faire barrage. Un ministre est formel, il faudra se retirer là où il y a un risque RN pour éviter tout péché originel. Il le rappelle car ce n'est pas une évidence. Exemple dans les Hauts-de-France où des marcheurs plaident pour le maintien. Si Xavier Bertrand refuse de fusionner, les fusions techniques, c'est une option poussée par plusieurs conseillers du chef de l'État, gauche, droite et Macronie, contre le RN en PACA par exemple. Encore faut-il tous être d'accord. Autre cas de figure qu'il faudra trancher, la Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui PS, est menacée par le RN. Ce sera l'heure de vérité, glisse un marcheur. On verra si on penche à droite, à gauche ou à droite. et à gauche.
Et incertitude aussi sur la participation. Un baromètre pour le quotidien Les Échos ce matin assure que 38% des électeurs pourraient se déplacer dans les bureaux de vote ce dimanche. Autre chiffre dévoilé hier, cette fois par Santé publique France, 41,9% comme le taux de personnel en EHPAD totalement vacciné, insuffisant pour le ministre de la Santé qui menace de rendre obligatoire la vaccination pour ses soignants.
Comme l'a fait le Royaume-Uni, hein, une idée diversement accueillie, c'est un euphémisme. Florence, aide-soignante dans un EHPAD, elle y est, elle, favorable.
On travaille avec des publics qui peuvent être fragilisés par la maladie, qui ont des pathologies, qui ont des comorbidités, qui les rendent plus fragiles justement. Donc c'est aussi par nous que passe la protection. Quand on rentre en école d'aide-soignante ou d'infirmière, on nous demande que nos vaccinations soient à jour et on vérifie avant même d'entrer à l'école que toutes les vaccinations obligatoires sont faites avec l'hépatite B. À partir du moment où on a accepté ce deal, quand on est entré en école de soignants, ça veut dire qu'on l'a accepté pour tout le long de notre carrière. On a accepté de se protéger et de protéger les patients et les résidents dont on aura la prise en soin en fait entre nos mains.
Florence, aide-soignante en EHPAD, jointe par Diane Berger pour Europe 1. Eux sont fermés depuis 15 mois. Les professionnels du monde de la nuit ont rendez-vous lundi avec Emmanuel Macron. Il sera question du protocole de réouverture des discothèques avec possible passe sanitaire et masque pour danser. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 7h30. Emmanuel Macron qui commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin 40 avant de s'envoler pour Berlin. Dîner de travail avec Angela Merkel pour préparer le Conseil européen de la semaine prochaine.
7h06 sur Europe 1. Le retour hier de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Accueil triomphal pour l'ancien président acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale.
Où il avait été transféré à La Haye donc il y a 10 ans pour crime contre l'humanité après son refus de reconnaître sa défaite électorale provoquant de graves troubles et la mort de 3000 personnes. Son adversaire d'alors, Alassane Ouattara, est toujours au pouvoir, mais ses proches l'assurent, il revient sans esprit de vengeance. Reportage à Abidjan du correspondant d'Europe 1, François Hume.
16h15, sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, l'avion du vol SN-299 de la compagnie Brussels Airlines se pose sur la piste. Et déjà les premières explosions de joie de la part des partisans de Gbagbo accrédités pour l'occasion. Lorsqu'il apparaît au loin, tout le personnel de l'aéroport cesse le travail. Contrôleur aérien, bagagiste, pompier forment une haie d'honneur pour l'accueillir. Un de ses supporters explique cette joie collective.
Parce que celui qui nous a montré le chemin, celui qu'on a marginalisé, celui qu'on a cru coupable de certaines choses qui étaient fausses, revient. Depuis 5h, 4h, nous étions sur pied. Et voilà que l'avion vient d'arriver. Nous sommes très heureux.
Laurent Gbagbo a toujours des adversaires, mais pour bon nombre d'Ivoiriens, il est devenu une icône comparée à Nelson Mandela. Le pouvoir ivoirien, gêné de voir un opposant revenir sous les hurrahs de la foule, a tenté toute la journée d'empêcher les rassemblements devant l'aéroport.
Nous partons accueillir l'idole du pays et en cours de route, la police et la gendarmerie sont en train de lancer des lacrymogènes.
Gbagbo a finalement pu se rendre au siège de son parti. « Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique », a-t-il dit devant les cadres de son parti. À Abidjan, François Imferkataji pour Europe 1.
À l'étranger, toujours ce nouvel accro dans la trêve au Proche-Orient. Bombardement israélien hier contre des cibles du Hamas à Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers Israël. Et puis en Iran, élection présidentielle aujourd'hui qui devrait consacrer l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. On sera sur place à Téhéran dans le journal de 8h.
Et on va en parler aussi avec Vincent Hervoet, le regard international dans moins de 10 minutes maintenant. Aux États-Unis, un nouveau jour férié fédéral. Ce sera demain, le 19 juin, qui célébrera désormais la fin de l'esclavage. Joe Biden a promulgué hier la loi dont s'est félicitée sa vice-présidente Kamala Harris.
Comme nous l'avons fait il y a quelques semaines avec l'histoire du massacre de Tulsa, nous devons apprendre de notre histoire et nous devons enseigner notre histoire à nos enfants parce que cela fait partie de notre histoire en tant que nation. Cela fait partie de l'histoire américaine.
La vice-présidente américaine Kamala Harris, hier soir. Un moment fort hier au Danemark dans le cadre de l'Euro de football. C'était à la 10e minute du match entre les Danois et les Belges. Tout un stade, le stade de Copenhague, qui applaudit en hommage à Christian Eriksen, hospitalisé à moins d'un kilomètre de la vol d'oiseau, le joueur terrassé le week-end dernier par un malaise cardiaque. Hommage pendant de longues minutes. À la fin, le Danemark qui menait à ce moment-là a fini par s'incliner 2-1. La Belgique a donc décroché son ticket pour les huitièmes de finale, tout comme les Pays-Bas de leur côté, tombeurs de l'Autriche 2-0.
La France, elle, jouera demain à 15h, vous le savez, vous l'attendez, contre la Hongrie. Des Français Français qui ne seront pas 11 sur le terrain, mais 12. Oui, du côté de la sélection hongroise, l'un des défenseurs est français d'origine, il s'appelle Loïc Négo. Écoutez son portrait, signé Simon Rubin.
Drôle de retrouvaille pour le défenseur de la Hongrie, Loïc Négo. Lui, le natif de Paris, sacré champion d'Europe des jeunes avec l'équipe de France en 2010. À l'époque, il portait le maillot bleu aux côtés d'Antoine Griezmann, parti très jeune pour l'Italie. Le Français n'a pas confirmé son potentiel. Sa carrière bifurque alors en 2013, direction un club hongrois. Et il se bâtit une solide réputation dans le club de Székesfehérvár, non loin de Budapest. Naturalisé hongrois, il a choisi de changer de sélection l'an passé.
C'était un choix aussi avec le cœur. Je savais que l'opportunité pour moi de jouer en équipe de France était de 0%. J'ai sauté sur l'occasion qui m'a été offerte et aujourd'hui je suis très content.
Alors il le reconnaît, il y aura bien sûr un peu de stress, mais surtout l'envie de montrer que malgré un parcours chaotique, le défenseur formé à Nantes a su se retrouver. Aujourd'hui, c'est tout pour la Hongrie, assure-t-il. Et demain, il jouera devant 68 000 personnes, devant son public de Budapest.
Simon Rubin à Budapest pour Europe 1 et dans leur préparation, les Bleus dont Kingsley Coman s'est séparé, en tout cas provisoirement, le temps d'assister à la naissance de son enfant.
Oh, comme c'est mignon, un petit carnet rose derrière le carnet bleu.
Exactement. Si je veux dire,
merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.